Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Stéphane Carcillon, responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, également membre du Cercle des économistes. Avec nous, Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et qui a fondé les Entrepreneurs pour la République, et Xavier Timbaud, directeur principal de l'FCE, qui s'apprêtait à dire quelque chose de fondamental. Laurence Mécri, mon association accompagne des créateurs de marques, dont des personnes en reconversion ou au RSA. J'ai essayé de faire un partenariat avec la Gironde, sans succès, l'appel d'offres a été remporté par je ne sais pas qui. Bon. Que vouliez-vous dire, Xavier Timbaud, avant que la pendule ne vous coupe?
Ce que je voulais dire, c'est que le RMI comme le RSA sont quand même fondés sur une ambiguïté qui est, oui, il faut ramener les gens le plus possible vers l'emploi et l'activité et les sortir de cette situation, mais voilà, le système, la sociologie, la réalité des choses fait qu'il y a aussi des gens qui sont dans ces situations-là et qui ne sont pas en capacité
pas
de pouvoir en sortir. Ou en tout cas,
Est-ce qu'on connaît, sur les 2 100 000, est-ce qu'on est capable de dire
elle existe.
Combien ont une chance de retourner vers l'emploi, combien en sont trop éloignés pour plein de raisons, maladie, incapacité, décrochage scolaire très très précoce qui fait que même la lecture peut parfois un problème. Enfin.
Elle existe, cette sociologie, donc elle est documentée et on sait qu'il y a des populations...
C'est documenté.
Oui, et on sait qu'il y a des populations qui ne rentreront pas dans ces dispositifs d'accompagnement. Si jamais on en fait une obligation, il faut qu'on dise ce qu'on va faire avec ces gens qui ne vont pas rentrer dans ces dispositifs obligatoires. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on leur dit « Ah, tu n'as pas voulu être accompagné », entre guillemets, parce que cet accompagnement, il est assorti d'une obligation, donc ce n'est pas que de l'accompagnement, c'est quand même aussi la partie devoir des droits. Et donc, mais qu'est-ce qu'on fait là? On lui dit, on te supprime le RSA? Et
à un moment, il faudra faire du cas par cas, regarder profil par profil, évidemment.
Et Léonidas disait quelque chose, mais à mon avis, je suis pas en accord avec lui, la dignité de la société n'est pas que d'offrir un revenu décent à ceux qui travaillent. La dignité de la société, elle est d'offrir un revenu décent à ceux qui ne travaillent pas. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a une allocation adulte handicapé.
Oui.
Et on ne va pas dire aux handicapés, toi, ta partie de devoir, c'est quand même de travailler.
Non, c'est bon.
Donc, il y a une partie de la population. Alors, on peut discuter quelle partie, pourquoi...
Même, c'est important de savoir si sur 2 100 000, il y en a quoi, 80 000 qui sont vraiment...
Il n'y en a pas 2 100 000.
Inemployables.
Bon, je parle encore sous le contrôle...
1 900 000 bénéficiaires du RSA.
Dernier chiffre, et d'accord.
Je pense qu'il y a un noyau, on va dire autour de 30%, 40% de bénéficiaires du RSA qui constituent des situations qui sont de l'ordre de la situation assez grave.
Stéphane, c'est parce qu'il y a un moment, il ne faut pas le regarder avec de la morale. Il faut regarder comment ça fonctionne, qui est concerné, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qui est possible, ce qui est du domaine de l'utopie. Ce n'est pas la peine de continuer à porter politiquement un projet avec une volonté politique de faire si on sait qu'on n'y arrivera pas. Et si la Seine-Saint-Denis le signale que non.
Le signal, c'est que c'est difficile, et je pense que c'est doit être clairement difficile, parce que les barrières, comme Xavier vient de le dire, les barrières à l'emploi sont multiples pour une partie non négligeable de ces bénéficiaires. C'est des problèmes de garde d'enfants, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes de mobilité, c'est des problèmes parfois de logement par rapport à d'éloignement de l'emploi qu'on propose, des problèmes d'âge, etc. Donc il y a toute une complexité qui fait d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle l'expérimentation est hyper importante, parce qu'il y a des gros enjeux d'accompagnement de ces personnes très éloignées de l'emploi, c'est de rapprocher les services. Je donne toujours l'exemple de ce qui se passe en Norvège. En Norvège, un des grands succès, ça a été de mettre dans le même bâtiment les services sociaux qui s'occupent de tous ces problèmes de logement, de mobilité, de garde d'enfants, avec les services de l'emploi dans un seul endroit, qui s'appelle NAV. Et cette fusion qui a pris de longues années à être réalisée, avec des services municipaux qui travaillent main dans la main avec les services nationaux d'accompagnement pour l'emploi, ça a bénéficié justement à ces personnes les plus éloignées. Et donc c'est difficile
à faire.
Voilà
une expérience à regarder.
Ce que dit Stéphane est très important, mais excusez-moi, dans la loi sur le RSA qui a été proposée, il a pas été question de ça. Il a été question d'une obligation à travailler. Et c'est pas du tout pareil de dire on va vous accompagner et étudier vos services, vos problèmes et mettre en face tous les services de l'État ou des régions ou des départements qui peuvent y répondre. C'est pas ça. On dit ah ben non, mais maintenant le RSA obligation de travail.
Obligation de travailler ou obligation de participer à une activité.
Oui, c'est le mot activité.
C'est l'activité.
C'est assez vague d'ailleurs.
Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir à un moment donné l'idée de dire voilà, il y a dans 6 mois ou il y a des jalons dans lesquels vous devez rentrer dans une activité.
Une activité de formation.
Alors, ça peut être une activité de formation, ça peut être des ateliers, etc. Je pense que en fonction de la distance par rapport à l'emploi des différentes personnes, l'activité va pas du tout être la même. Et c'est ça l'objectif, hein, c'est d'arriver à graduer
les discernements dans cette histoire.
Mais ce qui est jusqu'à certains à qui on ne demandera pas d'activité.
Mais sur le papier, ça a l'air très simple. En pratique, c'est très compliqué parce que il faut qu'il y ait à la fois un réseau de formateurs, un nombre suffisant de conseillers pour offrir ces activités, aussi un réseau d'associations pour
mais qui sont extrêmement nombreuses et certaines très performantes.
Et il faut mettre toutes ces personnes ensemble pour arriver à travailler.
Oui, mais
c'est pas évident.
Sur la question de l'obligation, je voudrais juste répondre à Xavier Tabou parce que la question de l'obligation, elle n'est pas tellement pour savoir si oui ou non vous allez contraindre quelqu'un au travail. C'est simplement le fait de dire vous avez des rendez-vous réguliers et ces rendez-vous réguliers doivent être des moments où on essaye de faire un pas devant l'autre. C'est juste faire en sorte que on garde un lien de sociabilité. C'est-à-dire que
je suis à 1000% d'accord avec ça.
Si vous ne faites pas ça, Xavier,
la seule chose que je dis, c'est que dans la loi, il n'a jamais été question de ça. Loi, on n'a pas dit vous avez une obligation d'être suivi par quelqu'un qui va vous faire un suivi personnalisé et qui va déployer tous les moyens qu'on a à notre disposition pour vous aider. A été dit, on va vous obliger à avoir une activité.
Xavier,
pour mettre de la bienveillance dans le mot activité.
Je suis pas d'accord.
C'est pas ça qu'on a fait.
Il y a un aspect qui sera fondamental, c'est de savoir qui doit trouver l'activité. C'est l'administration qui doit trouver l'activité.
Mais il n'y a pas que l'administration aussi. Pardonnez-moi, il y a les associations, elles sont extrêmement nombreuses. Il y a les entreprises. Globalement, c'est une mobilisation générale. Et pour ce qui est de savoir si oui ou non c'est une obligation, si la question que vous posez, Xavier, derrière, c'est de dire est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un qui n'a pas rempli ses obligations ou lui coupe les vivres, je suis pas en train de dire qu'il faut mettre les gens démunis, sans rien, à la rue, sur le pavé. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que il doit y avoir une tension sociale, une relation sociale. Je ne veux pas, en tant que citoyen, avec tous les impôts que nous payons, que des gens se retrouvent à être, comment dirais-je, avoir comme seul lien avec la société le fait qu'ils reçoivent un chèque par mois pour solde de tout compte. Je trouve que c'est le degré zéro de la République.
Mais je vous rejoins complètement là-dessus. La seule chose que je dis, c'est que la loi telle qu'elle a été proposée ne répond pas à cette question.
Non, parce que
je pense qu'elle n'accepte pas la complexité des situations et des moyens, et que tant qu'on ne le fera pas, on va rester sur des postures qui sont des postures droit, devoir, obligation.
Mais regardez
ça conduit à quoi ? Ça conduit à des frustrations de tous les côtés.
L'échec en Seine-Saint-Denis, c'est un échec politique. Ce sont des partis pris politiques qui font qu'on dit
souvent.
Non, on ne va pas le faire. Et malheureusement, l'échec qui est acté aujourd'hui est juste un échec, non pas de la volonté des bénéficiaires du RSA, mais de la volonté de ceux qui le distribuent.
Parlons d'une autre chose qu'on a faite en France qui est aussi un échec, qui est le fait de donner au département la responsabilité de la gestion du RSA.
Probablement, peut-être.
Voilà, et de leur donner, en leur donnant des moyens initiaux, mais en fait en augmentant les missions, en particulier avec cette loi, sans leur donner des moyens supplémentaires. Donc, qui disent à un moment donné, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas les compétences, et on n'a pas les services de l'État qu'on pourrait mobiliser là-dessus, et donc on ne veut pas le faire, ça ne me paraît pas être un parti pris politique qui est inacceptable.
J'ai comme à chaque fois qu'on évoque ce genre de sujet, plein de réactions pour chacun donne l'exemple de la personne au RSA qu'il y connaît, qui vit très très bien comme ça, et qui s'en porte très bien, sous-entendu, il en profite. Il y a par exemple Arnaud m'écrit, je suis paraplégique, j'ai fait des études, je bosse, je ne touche aucune aide type allocation adulte handicapé. J'avoue avoir du mal à voir ces gens qui vivent aux frais de la société et qui se sentent stigmatisés quand on leur demande de se bouger. Toujours pareil.
Alors il y a effectivement aussi une
Stéphane
partie.
Carcillo.
Il y a une partie il y a toujours des exemples autour de soi de personnes qui perçoivent le RSA et qui travaillent de manière non déclarée à côté. Donc le RSA est un complément de revenu. Hein. Donc ça, on a le cas. Donc un des objectifs aussi de cette activation obligatoire, c'est de dire à un moment donné, ça va vous prendre trop de temps. Donc autant aller travailler à temps plein, hein, parce que ce qu'on va vous demander comme nombre d'heures d'activité, de toute façon, vous serez pas capable de les faire. Donc il va falloir décrocher du RSA. C'est un des objectifs. Mais je suis complètement d'accord avec Xavier sur le fait qu'il y a une petite partie de ces bénéficiaires qui de toute façon ne retourneront pas vers l'emploi parce qu'ils sont d'un point de vue social, d'un point de vue parfois mental,
il y a des difficultés
mentales, d'un point de vue parfois de l'âge, ils sont tout simplement pas en mesure. Et donc c'est là toute la complexité de s'attaquer à ce problème sur ces populations, c'est qu'à un moment donné il y a une évaluation humaine qui doit être faite de la situation, et à un moment donné, il y a des gens qui doivent être dispensés de ces. Mais où est-ce qu'on met la barre? Et ça, c'est toute la difficulté du dispositif. L'objectif de 100%, personne n'y arrivera jamais, pour des raisons véritablement, parce qu'il suffit, certaines personnes, il suffit de les avoir en face de soi pour se dire ça va être extrêmement compliqué, il y a trop de barrières, il y a trop de difficultés, trop d'instabilité parfois psychologique, et donc il va falloir qu'il y ait tout simplement un filtre humain pour la gestion de ce type de dispositif. Et je crois que tous les pays le font, parce que tous les pays sont confrontés, effectivement, quand on aide ces populations très éloignées de l'emploi, à une toute petite partie de la population, qui est vraiment pas du tout employable.
C'est si complexe que la date pour atteindre les fameux 100%, mais qui semble effectivement illusoire, a d'ores et déjà été repoussée à 2027, tandis qu'elle avait été fixée à 2024 initialement. En marge de ça, mais moi, c'est le sujet m'intéresse quand même. Le revenu universel, est-ce que vous pensez qu'on ira au revenu universel?
Mais on a déjà un revenu universel en France.
Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle RSA.
Il s'appelle les 10 minima sociaux. Il y a plusieurs manières de faire le revenu universel. Hein. Soit vous le donnez à tout le monde, soit vous faites plusieurs types de minima qui sont ciblés sur des populations différentes qui couvrent tout le monde. Franchement, le diable se cache dans les détails dans ce type de dispositif. Quand on part de zéro, effectivement, on peut s'imaginer faire un dispositif de revenu universel. Lorsqu'on part d'un système tellement étoffé comme on a en France, qui couvre énormément de populations différentes, faire un revenu universel, ça va faire énormément de perdants. De perdants. Parce que vous allez niveler, parce que les dispositifs aujourd'hui, soit vous faites un dispositif qui se cale sur le plus généreux et à ce moment-là, ça coûte des fortunes, soit vous vous mettez sur une situation médiane et à ce moment-là, comme vous faites un revenu universel qui doit être individualisé, c'est le principe du revenu universel, j'aide les individus. À ce moment-là, vous enlevez toutes les aides familiales, parce qu'aujourd'hui, le RSA et la plupart des autres aides sont modulées en fonction de la situation familiale. Et donc, vous allez faire perdre les familles, les couples, etc. Vous faites perdre beaucoup de modulation qui aide énormément de gens. Et donc, dans les simulations qu'on avait faites, nous, à l'OCDE, sur ce revenu universel, on se rendait compte que pour un certain nombre de pays, pour le plus grand nombre de pays, y compris la France, notamment, les familles sont extrêmement perdantes. Les familles modestes avec un des parents ou les deux parents qui ne travaillent pas sont extrêmement perdantes par rapport à ce revenu universel. Donc il faut voir aussi la faisabilité de ce genre de dispositif.
Le RSA sera revalorisé en avril, 607 € par mois pour une personne seule, 911 € par mois pour un couple sans enfant ou pour une personne seule avec un enfant, 1094 € par mois pour un couple avec un enfant. Et alors une personne seule, à chaque enfant supplémentaire, ça peut atteindre quand même des montants qui sont au-delà du SMIC net, si on a 4 enfants. À 4 enfants, vous êtes au-delà du SMIC net. Effectivement, je me mets à la place d'une mère de famille qui a 4 enfants. Retourner travailler si le dernier a 6 mois.
Elle a le droit à la prime d'activité.
Oui, c'est oui, exact.
Qui est le complément qui vient du RSA, parce qu'au départ, c'était le RSA activité, et qui vient en complément, et qui lui aussi est modulé en fonction du nombre d'enfants. Donc tout ça est fait pour que, par rapport à la situation de non-travail, cette femme avec 3 ou 4 enfants gagne quand même plus que si elle ne travaillait pas. Attention, toute la réforme du RSA a été faite pour ça.
Voilà. Et le deuxième point, c'est quand même qu'on veut absolument éviter la pauvreté des enfants. Parce que, pour le coup, si on veut pouvoir diriger une aide qui n'est pas un revenu universel, mais qui est de garantir à tous les enfants qui vivent sur le territoire, quelle que soit la situation et les choix de leurs parents, un niveau de vie qui soit décent. Donc, si on renonce à ça, on renonce quand même à énormément de choses aujourd'hui. Et la notion d'égalité des chances et d'égalité d'opportunités serait totalement bafouée et balayée.
Bien. J'aimerais avoir votre avis sur... Est-ce que vous arrivez à expliquer, parce que j'ai l'impression que c'est une énigme pour les économistes, et c'est un sujet qu'on aurait dû aborder en même temps qu'on parlait de la réforme des retraites et du poids du travail dans le financement de la protection sociale, c'est les fameux gains de productivité. Les gains de productivité baissent en France aujourd'hui, alors que ce fut le contraire par le passé. Ça a inscrit dans la tête des gens que oui, on a peut-être pas le plus grand nombre d'heures travaillées, mais qu'on était super, super productif, beaucoup plus que les autres. On n'a pas beaucoup de rameurs, mais on n'a que des très bons rameurs. Et ben c'est de moins en moins vrai. On a le droit de dire qu'on ne comprend pas, Stéphane Carcillo, où il y a aujourd'hui des éléments factuels et totalement validés pour comprendre pourquoi les gains de productivité fondent.
Alors on a le droit de dire qu'on comprend pas tout.
Ah, mais c'est déjà bien pour démarrer.
C'est déjà un peu d'espoir. Donc non, il y a des raisons. D'abord, il y a une baisse tendancielle des gains de productivité qui est commune à tous les pays. Donc ça, c'est un peu le mystère parce qu'on voit.
Ça doit nous rassurer.
Non, mais parce qu'on voit aussi, énormément de nouvelles technologies qui devraient augmenter la productivité. Pour l'instant, on voit pas véritablement ces gains forts se manifester. Après, il y a des raisons qui sont aussi communes à tous les pays, qui sont le vieillissement de nos populations, qui est une tendance qui a effectivement tend à réduire la productivité. Et il y a des éléments aussi spécifiques à certains pays. À mesure que le chômage baisse, on a fait rentrer sur le marché du travail des personnes qui étaient moins qualifiées et donc moins productives. Et donc les emplois qu'on a créés sont des emplois souvent dans les services. Beaucoup de ces emplois sont relativement peu qualifiés et ça fait baisser la productivité par emploi.
Et puis il y a certains emplois où la productivité peut difficilement augmenter.
Voilà.
Quand vous coupez les cheveux de quelqu'un, vous n'allez pas faire x2 en termes de gain de productivité.
Mais
il y a peu de chance.
Voilà, vous dites effectivement, on a cette baisse des gains de productivité parce qu'au début, il y a quelques années, on se targuait d'avoir effectivement des gens très très employables et très productifs.
C'est le grand argument des défenseurs.
On avait 10% de chômage. À mesure qu'on fait rentrer sur le marché du travail des gens de plus en plus éloignés de l'emploi, et c'est les dernières réformes ces dernières années ont enrichi la croissance en emploi, mais c'est pour beaucoup des emplois qui sont relativement peu qualifiés, parce que 80% des chômeurs n'ont pas dépassé le bac, et donc on fait rentrer ces gens sur le marché du travail, les emplois concrets sont des emplois moins qualifiés. Alors, donc du coup, il y a un côté un peu plutôt positif de cette baisse de la productivité, c'est qu'on a créé beaucoup d'emplois, qu'on a remis en emploi un certain nombre de personnes, mais ça n'épuise pas le sujet de la baisse des gains de productivité.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette histoire de productivité? Allez-y, Xavier Timbaud.
Oui, il y a...
C'est souvent la mauvaise... C'est la mauvaise nouvelle qui explique le recul du chômage. Ah, le chômage recule, mais oui, mais c'est parce que la productivité recule.
Voilà, il y a un effet qui est lié au Covid.
Alors ça, c'est oui, ça c'est structurel.
Parce que on a vu dans la période post-Covid un effondrement de la productivité, véritablement, avec comme contrepartie, effectivement, que beaucoup d'emplois n'ont pas été détruits, et ce qui a permis, par exemple en France, pendant la période du Covid, le chômage a continué de baisser.
Ouais.
Alors qu'on aurait pu attendre que ce ralentissement très fort de l'activité et le fait qu'on ne soit pas revenu au niveau d'activité d'avant le Covid se traduisent, ça paraissait presque assez logique même, se traduisent par une hausse du chômage. Or, on n'a pas eu cette hausse du chômage, on a eu un chômage qui a continué à baisser légèrement.
Et ça continue les créations nettes d'emplois, même aujourd'hui.
Voilà, alors, donc ça c'est surprenant. Ça ne peut pas s'expliquer par les non-qualifiés, ça ne peut pas s'expliquer par la technologie. Peut-être que ça peut s'expliquer un peu par la technologie d'ailleurs, mais... Très probablement, c'est lié au fait qu'on a maintenu en activité beaucoup d'entreprises grâce aux dispositifs d'aide spécifiques au Covid, et que ça se traduit par des entreprises moins productives qui ont moins de difficultés financières, parce qu'on a distribué trop d'argent, en quelque sorte, vers ces entreprises, et donc elles maintiennent dans l'emploi un certain nombre de gens. On pourrait appeler ça des entreprises zombies. C'est un petit peu péjoratif.
C'est péjoratif, mais
bon.
Mais
disons que ça nous permet de penser que petit à petit, il est probable que le jeu du marché reprenne son cours et que les aides étant progressivement éliminées, on va avoir à nouveau des défaillances dans ces entreprises-là et des pertes d'emplois et revenir à quelque chose d'un peu habituel.
Il y a cette possibilité de retrouver de la...
C'est pas une certitude. Hein.
Non, mais effectivement, ça pourrait être lié au fait que des entreprises vont tomber et qu'on va recommencer à licencier. Mais ça peut aussi être parce que la croissance va revenir. Et je pense qu'il y a un phénomène très conjoncturel dans cette baisse de compétitivité. Enfin, objectivement, on a une conjoncture internationale et un certain nombre de facteurs qui font que notre croissance a baissé. Et c'est parce que notre croissance a baissé qu'on fait le calcul entre les créations d'emplois, le niveau d'activité, et on se dit la compétitivité a baissé parce que entre les deux, le ratio n'est pas bon. Mais vous le rappeliez tout à l'heure, Xavier, notre croissance sortie de Covid, elle aurait dû être à 2,5.
Certes.
Et si elle était à 2,5, notre compétitivité serait supérieure.
Je pense qu'on a un
effet optique qui est...
C'est pas tout à fait optique, hein, parce que on a depuis 2019 un déficit d'activité qu'on peut chiffrer pour la France à 3 ou 4 points. Habituellement, sur une période de 4 ans, quand on a moins 4 points d'activité, on a des destructions d'emplois.
Normalement,
ça,
oui.
C'est quand même... Enfin, voilà, on peut retarder les destructions d'emplois de quelques trimestres, les retarder de 4 ans, C'est quelque chose d'exceptionnel.
On a créé une perfusion d'argent public au-dessus de l'économie tous okay. azimuts, qui est complètement unique dans l'histoire.
Ok, donc ça, ça peut être la raison pour laquelle on a gardé ça, mais on se pose la question aujourd'hui de supprimer cette perfusion d'argent public, de la réduire très fortement, et donc qu'est-ce qui va se passer sur l'emploi?
Tout le monde se pose la question, même la Banque de France.
On ne va pas avoir 4 points d'activité qui vont arriver en un an, le jour où on va supprimer les dispositifs d'aide. Ça, on en est quasi sûr. On aura peut-être une très bonne surprise, mais
c'est pas vrai. On a pas mal de surprises. Avouez sincèrement qu'il n'y a pas un économiste qui a prévu que l'emploi continuerait à être créé, que le chômage reculerait dans les circonstances économiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais je voudrais juste revenir sur cette question de revenus universels et d'aide. Non, mais vous allez voir le lien entre les deux. L'aide à l'économie, l'aide sociale et la dynamique apportée. Est-ce que lorsque l'on apporte de l'aide, tout le monde s'endort sur les aides? Moi, je constate simplement qu'on a un filet protecteur social qui amène 1 million de Français à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on risque pas sa vie. Enfin, quelque part, on risque pas sa peau en prenant un risque de créer une boîte. On a une protection sociale, on a un cadre social, et finalement, ce cadre social fait qu'on se dit, je peux me lancer. D'autres, jadis, ne se lançaient que quand ils avaient un cadre familial qui leur permettait de prendre des risques. Mais prendre un risque, c'est un risque mesuré. Et de la même manière, pour nos entreprises, vous dites, on les a accompagnées financièrement et on a fait des entreprises zombies. Peut-être finalement qu'on va réaliser, et c'est une expérience in vivo que l'on va vivre en tirant le bilan de ces 3-4 années de post-Covid, peut-être qu'on va constater qu'en ayant accompagné les entreprises de façon un peu plus compréhensible qu'on le faisait par le passé, on a permis à des entreprises de créer des emplois, de créer de l'innovation, de se développer, et que finalement, ça va nous redonner un nouveau standard de ce qu'est l'accompagnement du dynamique entrepreneurial. Et je pense qu'on n'est pas au bout de l'apprentissage que l'on va avoir
séquence.
Ce que dit Léonidas, vraiment extrêmement d'accord avec ça. On va faire cette expérience. On les a appelés entreprises zombies. Je pense que, je n'aime pas du tout ce terme, parce qu'il prend déjà un parti en disant
elles sont mortes
elles vont bientôt remourir.
L'idée, c'est qu'elles n'auraient pas résisté s'il n'y avait pas eu les filets de sécurité et que la vie normale de l'économie les aurait fait trépasser.
Peut-être qu'il en fallait
6 mois de plus pour arriver à vivre, et que ces 6 mois leur ont été offerts.
Admettons que c'est une expérience unique au monde.
Ce dont on va se rendre compte, c'est qu'en levant les contraintes de financement pour un certain nombre de PME, ce qui a été le cas avec le PGE, en fait, on permet à des PME de trouver leur équilibre et d'avoir des dynamiques et de prendre des dynamiques qui vont être plus positives. Et peut-être qu'on va s'apercevoir que justement la sélection qui est faite par les banques est trop dure et que elle brime l'économie.
J'aime bien l'idée.
L'empêche de se développer.
J'aime bien l'idée. Tout ce qui est expérimental me plaît. Donc,
on a déjà.
Vous voyez, là, on a l'expérimentation.
La création de la BPI répond à exactement cette même préoccupation. Là, c'est un peu comme si on avait fait une BPI pour tous à grande échelle.
Je vois. D'ailleurs, la BPI était derrière, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la BPI dit bien, on accompagne des créations d'entreprises là où effectivement les banques ne voulaient pas le faire.
Exactement.
Et c'est une banque privée d'État. Mais parce qu'elle a apporté un regard nouveau, et regardez quand même, je pense que personne ne peut avoir la moindre critique philosophique sur ce que la BPI réussit à faire.
J'en connais pourtant, si. J'en ai beaucoup qui disent du bien de la BPI, mais beaucoup qui sont beaucoup plus dubitatifs entre considérant que c'est pas le boulot de l'État et qu'il y a des banques pour ça.
Pardonnez-moi, je voudrais juste abonder dans ce sens. Ça aurait été le boulot des banques, mais je dois dire que c'est fascinant. D'abord qu'elles ne le font pas, et d'autre part, elles se sont tellement habituées à la BPI que lorsque la BPI dit c'est pas tout à fait pour
le
ceci ou cela.
C'est malsain qu'une entreprise qui n'est pas BPI compatible ne soit plus reçue dans une banque commerciale.
Eh bien, c'est le cas.
Eh bien, ça arrive,
Ça arrive, et c'est...
Ça, c'est pas normal.
Je trouve beaucoup de critiques, peut-être certains veulent critiquer la BPI, j'ai beaucoup de critiques sur les banques privées. Je trouve qu'un certain nombre d'entre elles...
Les plus critiques lui prédisent un destin ou... destin du Crédit Lyonnais, quoi, ou d'Exia.
Écoutez, elle est bénéficiaire.
Aujourd'hui, oui.
Elle a créé un écosystème extraordinaire.
C'est potentiellement un sacré changement de paradigme.
De quoi?
Les PGE, la BPI, le rôle des banques, le rôle négatif des banques sur le financement des PME, le fait qu'il faut des acteurs qui sont différents, qui ont d'autres incitations, qui ont d'autres missions que les banques privées. Enfin, c'est un sacré changement de paradigme dans le financement de l'économie.
J'aime bien votre idée de dire qu'on ne tirons pas tout de suite les conclusions des PGE, des entreprises dites zombies. Attendons de voir comment les choses... De toute façon, la réalité des faits économiques nous a tous tellement démentis depuis 1 an et demi, 2 ans, que ça appelle à pas mal d'humilité. Souvenez-vous, tous ceux qui nous disaient parmi les plus grands experts de l'inflation, dont les banquiers centraux, que ça allait durer 6 mois.
Nicolas, mais très sincèrement, nous aurions une bonne nouvelle, et je trouve qu'on est tous pas suffisamment préoccupés de ce qui se passe à l'échelle internationale, mais la guerre en Ukraine se terminerait dans une semaine. Nous aurions une croissance économique qui ramènerait la totalité de ce qu'on a dit sur la compétitivité française à être corrigée en quelques semaines, et nous remettrait dans une dynamique de croissance. Donc, véritablement, vouloir regarder un phénomène de manière étroite et ne pas regarder le contexte me semble pouvoir nous amener à faire de grosses erreurs d'analyse.
Il reste 1 minute 30. Stéphane Carcillo, est-ce que vous êtes intéressé par ce qui se passe à Clermont-Ferrand d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine? C'est le 53e congrès de la CGT. Pour la première fois, une femme pourrait prendre la tête de la centrale. Philippe Martinez porte une candidate CGT 21e siècle. Et la CGT Canal Historique s'inquiète que ce syndicat ne devienne la CFDT et souhaiterait porter la candidature de Céline Verzelletti, que les téléspectateurs connaissent bien car elle est une voix traditionnelle de la CGT lutte des classes. Comment vous regardez cette histoire en 2-3 mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps?
Écoutez, si la CGT veut devenir la CFDT, je pense que c'est un risque qu'il faut prendre. Parce que, non, la CGT signe très peu d'accords, ou quasiment aucun, au niveau national. En revanche, ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'elle en signe beaucoup au niveau local.
À peu près 80% dans les entreprises.
Voilà, au niveau des entreprises, en fait, elle est beaucoup plus négociatrice et signataire d'accords qu'elle ne l'est au niveau national. C'est sûr qu'au niveau national, elle a des positions qui sont extrêmement, extrêmement dures et extrêmement peu, propices à la signature d'accords. Donc, je ne suis pas sûr que les deux candidates aient vraiment des profils très différents de ce point de vue, hein, parce que,
On a fini 12 secondes.
12 secondes, simplement, c'est vrai qu'il y a eu l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Seule la CGT, et on peut pas imaginer que ceux qui ont signé cet accord étaient des défenseurs du capitalisme outrancier. Donc je trouve vraiment qu'il y a des moments où la CGT manque ses rendez-vous. Et puis je suis quand même très très surpris d'entendre M. Martinez dire benoîtement sur des plateaux de télé que les dividendes c'est du vol. Je pense que tant que l'on sera sur cette idéologie-là, il est temps que la CGT rentre dans le 21e siècle.
C'est l'une des actualités de la semaine. On en reparlera donc lors des prochaines émissions. Merci Stéphane Carcillo, Leonidas Calogiropoulos et Xavier Timbaud. Rendez-vous demain à 9h.
Merci Nicolas.